Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans votre émission de débat « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et je salue Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue, qui va co-animer cette émission.
Bonjour Alexis.
Le thème de notre émission, c'est « Quelles conditions d'accueil des enfants en situation de handicap à l'école ?» Pour en parler, je vais vous présenter nos deux invités. Tout d'abord, Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, Parti communiste.
Bonjour. Bonjour.
Vous avez été rapporteur pour la commission d'enquête parlementaire sur l'inclusion scolaire des élèves handicapés. Et vous allez remettre, ou vous avez remis, 57 propositions aux ministres concernés. On en reparlera dans quelques instants. Et notre autre invité, qui est Mathieu Hanereau, président de l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également conseiller municipal à Saint-Herblain et élu métropolitain à Nantes.
Tout à fait exact.
À chaque rentrée, son lot de parents mécontents alertent les médias et font entendre leur exaspération parce que leur enfant en situation de handicap n'a pas d'AVS ou d'accompagnant pour faire une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Les uns restent au mieux dans la classe sans accompagnement ad hoc, d'autres, au pire, sont renvoyés à domicile avec l'obligation pour leurs proches de se débrouiller. Alors ma première question, Sébastien Jumel, elle sera pour vous, qui avez longuement travaillé à l'Assemblée nationale sur ce dossier, c'est à combien peut-on estimer le nombre de ces laissés pour compte ou des familles qui sont en difficulté par rapport à l'accueil de leur enfant à l'école ?
Lorsque j'ai déclenché cette commission d'enquête en 2018, à la rentrée, à partir de l'expérience que j'avais dans mon département, en Seine-Maritime, il y avait, en mars, la commission d'enquête l'a désormais indiqué, 12 000 enfants sans solution à l'époque. C'est dire qu'il y avait le risque que depuis la loi de février 2005, on soit dans un océan de renoncement avec des îlots de satisfaction. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il fallait se mettre en tas, travailler, établir un diagnostic partagé sur d'où on part, quelle est la situation exacte réservée aux enfants en situation de handicap, comment prendre en compte la colère, le cri d'exaspération, l'isolement dans lequel les familles et les parents sont plongés, et puis comment on apporte des solutions pragmatiques et concrètes. C'était l'objet de cette commission d'enquête.
Alors justement, à partir de votre travail, est-ce que aujourd'hui il y a des pistes sérieuses pour permettre à ces enfants qui ne seraient pas encore inscrits, on a énormément de témoignages et on y reviendra dans le cours de l'émission, parce que effectivement pour les parents, pour les familles qui sont dans cette situation, c'est une grande souffrance.
Oui, j'ai eu des témoignages nombreux. C'est un parcours du combattant. Vous savez, pour un parent, prendre en compte le handicap de son enfant, d'abord c'est violent. Rapidement, on se trouve isolé. Nombreuses sont les femmes, notamment, qui renoncent à leur boulot pour s'occuper de leur enfant en situation de handicap. Et puis après, on est confronté à la déshumanisation de l'institution, au MDPH, qui ont des modes de fonctionnement difficiles.
Maisons départementales du handicap.
Et donc, parmi les propositions nombreuses que nous avons formulées, il y a d'abord, premièrement, un pilotage global cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que l'État sache d'où on part, quelles sont les statistiques, quels sont les enfants sans solution, quelles sont les places, quelles sont les places en IME, en ULIS, en CLIS, etc. Puis une fois qu'on a ce pilotage, deuxième enjeu, comment on humanise la réponse des maisons départementales du handicap. Comment on simplifie les réponses? Comment on les rend plus réactives? Comment on fait en sorte que quand une maison départementale, gérée par les départements, donc, décide de notifier la prise en charge d'un handicap, eh bien cette notification ne reste pas théorique.
Lettre morte.
Mais qu'elle se mette en œuvre. Eh bien, c'est tout ça qu'on a étudié, c'est tout ça qu'on a décortiqué, et c'est à cela qu'on a tenté d'apporter des réponses. Avec quand même une conscience dès le départ que là aussi il y a des inégalités territoriales, que là aussi il y a des inégalités sociales, et que selon qu'on est en Seine-Maritime, 10 mois d'attente, ou en Île-de-France, par exemple, les délais n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais c'est parce que les transferts de charges au département n'ont pas été correctement identifiés, pris en compte, à l'époque où on a transféré la compétence du handicap au département. Et donc voilà, 57 propositions, votées à l'unanimité. Moi, dès le début, j'avais dit, on ne fait pas de ce sujet-là un sujet politicien. On ne fait pas de la cause impérieuse de la scolarisation des enfants en situation de handicap un sujet de polémique ou de posture. Enfin, le handicap, il est ni de gauche ni de droite.
Alors, on reviendra évidemment sur vos propositions. Hein. Peut-être, Arnaud Benedetti, une question aussi pour notre invité en ligne,
Mathieu Hanreau. Mathieu Hanreau, bonjour. Arnaud Benedetti de la Revue politique et parlementaire. Une première question. L'Association pour adultes et jeunes handicapés dit qu'elle alerte maintenant depuis de nombreuses années sur les difficultés et les blocages que rencontrent les parents dans l'inclusion des enfants handicapés et que rien ne bouge depuis un certain nombre d'années. Dans le même temps, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap, considère que l'inclusion progresse. Quelle est la réalité entre ces deux déclarations, selon vous ?
Alors, clairement, on a un retard et on a un gros travail réalisé dans notre société sur l'inclusion des enfants handicapés à l'école. On a une véritable volonté politique qui est affichée, que ce soit par Sophie Cluzel ou par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, sur le sujet. Ils travaillent fortement et ils ont pris la mesure du retard français sur cet enjeu. Moi, ce que je veux dire, et je rejoins Sébastien Jumel dessus, c'est chaque cas est une détresse et une colère qu'on peut comprendre. Je reçois également voilà, des dossiers de familles désœuvrées pour lesquels c'est le parcours du combattant de faire inclure leur enfant à l'école. Et puis ce manque d'humanité, ou on pourrait dire au sein de l'administration, qui fait qu'elles doivent, elles ont l'impression en tout cas de devoir justifier quelque part à chaque fois le handicap de leurs enfants, les dossiers MDPH, les recours au niveau de la CDAPH, enfin, c'est très compliqué. Le premier sujet, je pense clairement, et c'est pour ça que je regardais également avec attention les propositions de M. Jubel, c'est en effet replacer l'humain au cœur de ce schéma décisionnel administratif, au cœur des MDPH et des différentes instances, parce qu'il y a une vraie souffrance d'un point de vue des familles. J'ai pu échanger avec un certain nombre. J'ai suivi un cas très précis ici sur ma ville de Saint-Herblain. Un cas que j'ai même pu aborder et que la première dame Brigitte Macron suit d'ailleurs précisément. Mais ça montre la complexité également, les différents acteurs qui peuvent être en jeu sur un tel dossier, la lassitude des familles qui au bout d'un moment renoncent. C'est le cas que j'ai pu observer, qui renonce au recours, qui renonce à tout, alors que ce serait le bien de l'enfant, bien sûr, d'être mieux inclus ou de pouvoir suivre des séances de psychomotricité là, en l'espèce, puisque c'est dans le cas de troubles 10. Donc voilà, l'accompagnement des familles, simplification, c'est le premier gros chantier à mener, on est d'accord là-dessus.
Et est-ce que vous avez déjà des résultats par rapport à la cellule d'écoute dédiée mise en place dans chaque département pour peut-être essayer de pallier à ce déficit d'humanité et à cet isolement des familles? Je poserai la même question à Sébastien Jumel parce que vous l'avez dit tous les deux et il semblerait que l'État ait mis pour cette rentrée un numéro dédié en plus de la plateforme Aide Handicap. Est-ce que ça répond à une... Et avec aussi la promesse de réponse en 24 heures.
Alors déjà, moi je salue cette démarche qui est de toute façon positive et qui a été bien accueillie, bien entendu, de pouvoir être écouté, de pouvoir essayer de traiter les dossiers au cas par cas. Moi je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, donc après je pense que voilà, il va falloir... bien étudier les résultats justement de cette plateforme, le délai de traitement des dossiers, et puis in fine, bien sûr, l'aboutissement des dossiers sur lesquels on peut travailler cette plateforme. Donc voilà, je souhaiterais moi qu'il puisse avoir une étude derrière sur la mise en place de cette plateforme.
Alors, je vous pose la même question et j'en ajoute une autre. L'État a été condamné début septembre de cette année à verser 1 000 euros à une famille tourangelle dont l'enfant autiste a dû faire sa rentrée sans AVS. Est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience et que progressivement, les familles sont en train d'obtenir gain de cause et parfois avec des bagarres judiciaires, mais quand même les choses bougent.
Parmi les 150 personnes que j'ai auditionnées, il y avait le défenseur des droits. Et le premier motif de saisine du défenseur des droits, c'est la question de la scolarisation des enfants du handicap. 23% de saisines concernent l'absence de réponse de prise en charge d'enfants en situation de handicap. Donc oui, et puis la France avait été d'ailleurs montrée du doigt par le comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui se sentait préoccupé pour les discriminations à l'égard de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Sur les mesures que... Moi, j'ai la faiblesse de penser que le fait d'avoir déclenché une commission d'enquête a bousculé le gouvernement et a fait en sorte qu'ils ont mis des moyens, mis le paquet. Alors, dans mon département, le fait que je sois rapporteur, ils ont mis, semble-t-il, plus de moyens qu'ailleurs, ce qui pourrait flouter un peu mon regard.
Biaiser un petit peu le regard.
Et donc, c'est pour ça que moi, le 27, vendredi, donc demain, je ferai le point avec les 150 personnes auditionnées pour examiner avec eux les conditions de la rentrée, pour avoir des retours concrets sur la manière dont la rentrée s'est passée pour les enfants, selon les handicaps, selon les situations, et puis surtout pour voir comment on donne du prolongement aux 57 propositions. Parce que c'est la force de ces propositions, c'est que ce n'est pas les propositions de Sébastien Jumel. Elles sont votées à l'unanimité, elles émanent des 150 associations, syndicats, familles que j'ai auditionnées. Elles ont donc la force du terrain et du vécu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment que le ministre de l'Éducation nationale et Sophie Cluzel y sont attentifs. Je rencontrerai d'ailleurs à nouveau les deux ministres le 8 octobre prochain, parce que moi je leur ai dit, mon rapport il n'a pas vocation à caler les armoires, comme on dit.
C'est arrivé à d'autres.
Oui, c'est arrivé à d'autres rapports. Moi je souhaite que ce rapport... concrètement, il aboutisse à changer la vie pour les mômes. Il y a des propositions très concrètes. Par exemple, il y a un poste clé qui s'occupe de gérer la prise en charge des mômes, c'est les enseignants référents. S'ils traitent 450 dossiers, ils s'occupent de rien. Si on fait en sorte que pour 100 situations, il y ait un enseignant référent, alors là, on est dans le concret, dans le pragmatique. De la même manière... il y a un déficit d'ULIS, d'unité locale d'inclusion scolaire, notamment dans les lycées et les collèges. Le gouvernement dit qu'on va en créer 40 de plus par an. C'est déjà un point positif. Le rapport dit que pour combler le retard, il en faudrait 240 par an. Il y a donc un gap à franchir. Troisième élément, pour aller un peu dans le concret des propositions. Je disais tout à l'heure, le nombre de familles qui arrêtent de bosser pour prendre en charge. Vous savez, vous avez un enfant trisomique autiste... un enfant avec un lourd handicap, le ciel vous tombe sur la tête. Et puis l'amour des parents parle. Et donc, les rendez-vous chez les spécialistes, les orthophonistes, c'est la galère permanente. C'est de l'amour, mais c'est de la galère.
C'est du stress.
Ouais. C'est du stress. Il faut un statut pour les dents. Il faut que les parents qui arrêtent de bosser ou qui bossent d'une manière partielle pour s'occuper de leur môme, ils aient un statut, qu'ils continuent à cotiser pour leur retraite. Que l'expertise qu'ils développent, elle soit à un moment donné reconnue par une validation des acquis. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de très concret auquel je tiens beaucoup. J'ai été maire pendant 10 ans d'une belle ville qui s'appelle Dieppe. Je sais que quand on bâtit les cartes scolaires, c'est-à-dire que quand l'inspecteur décide d'ouvrir ou de fermer une classe, il prend pas en compte le fait qu'il y ait des mômes en situation de handicap. Sauf que vous mesurez comme moi que si vous avez une classe de 30 avec 3 enfants en situation de handicap, c'est pas une charge. Parce que c'est aussi une chance d'être frotté à des enfants en situation de handicap pour nos enfants.
Bien sûr.
Parce qu'on apprend la différence.
C'est l'apprentissage de la différence.
Voilà.
L'altérité.
Mais en même temps, si on fait ça dans une classe à 22, avec des enfants en situation de handicap, c'est pas complètement la même chose que si on fait ça dans une classe à 30, avec par exemple des enfants autistes qui supportent pas le bruit, et qui ont besoin d'espace de calme. Moi, je propose concrètement que quand on établit la carte scolaire, c'est-à-dire quand on décide d'ouvrir une classe, on prenne en compte le nombre d'enfants en situation de handicap. 57 propositions, je pourrais en préciser d'autres, mais voilà des sujets là où on ne fait pas la révolution, mais on prend en compte des réalités. Et puis enfin, il y a un sujet qui me préoccupe. La ministre a un discours très positif, très bienveillant, très généreux. Et un député communiste qui fait des compliments à la ministre, c'est pas tous les jours. Cela dit, je voudrais pas que derrière ce discours généreux, du tout inclusif, on finisse par oublier qu'à situation particulière, il faut des moyens particuliers. Par exemple, moi je pense qu'il faut garder des places en IME, en institut médico-éducatif. Parce qu'il y a des handicaps qui ne permettront pas à un enfant d'être scolarisé en milieu ordinaire sans moyens, parce que sinon c'est violent. Par contre, il faut des allers-retours, il faut des passerelles, il faut préserver les instituts de jeunes sourds, de jeunes aveugles. Parce que ces allers-retours, ce sur-mesure pour prendre en compte concrètement la situation des enfants en situation de handicap, c'est ce que les familles nous demandent.
Arnaud Benedetti, peut-être une question pour Mathieu Hanro, vous faire réagir, Mathieu, si vous avez envie de réagir.
Oui, et une question aussi pour Monsieur Jumel. Juste, en faisant un peu de benchmark avec nos voisins européens, est-ce qu'on peut tirer de ce que font un certain nombre, justement, de pays limitrophes, une inspiration qui nous permettrait de progresser dans ce domaine?
La commission d'enquête a essayé de se nourrir des expériences qui existaient ailleurs, au Canada, au Québec notamment, et puis en Italie, il y a, je crois, des choses dont il faut se nourrir, sur l'humanité, sur la qualité de l'accompagnement humain. Au centre de mes préoccupations, il y a évidemment aussi ça. Je ne sais pas si vous mesurez avec moi qu'en France, tous les boulots où on prend soin des autres, les aides à domicile, les aides soignantes, les AVS, qu'on appelle désormais les AESH, qui s'occupent des enfants en situation de handicap, tous ces boulots qui sont pourtant au cœur de l'humanité, s'occuper des aînés, s'occuper des enfants, sont la variable d'ajustement, sont des boulots précaires, sont des boulots sans statut.
Et pas très bien payés.
Et pas bien payés. Et bien la question de la précarité, notamment des intervenants, elle était aussi au cœur de mon rapport. Comment penser qu'on peut s'occuper de mômes en situation de handicap sans être formé, sans savoir l'année d'après à quelle sauce on va être mangé, sans avoir un nombre d'heures qui permet de stabiliser, y compris son métier. Bon, voilà, le gouvernement a un peu bougé en proposant deux contrats de 3 ans, alors que 95% des AVS avaient des contrats de moins d'un an, et des contrats souvent en dessous de 24 heures, c'est-à-dire payés au lance-pierre. Nous, on propose d'aller vers un statut, ce serait l'idéal. Dans un premier temps, dans le rapport, je propose d'aller vers la CDIsation de ceux qui, au quotidien, prennent soin de nos mômes. Les former aussi. Le rapport a mis en évidence le fait que les enseignants n'étaient pas formés. 1% seulement des enseignants ont une formation spécialisée pour s'occuper d'enfants en situation de handicap. Dans les écoles de formation des maîtres, la question des modules obligatoires sur le handicap a été aussi souligné comme étant un impératif. Parce que sinon, vous savez, quand vous faites mal les choses, quand vous prenez mal en compte un enfant en situation de handicap, c'est violent aussi c'est violent pour le môme d'abord, c'est violent pour la famille évidemment, mais c'est aussi violent pour le professionnel qui n'est pas armé pour faire correctement son métier. Et donc on a développé aussi de nombreuses propositions pour que la formation des intervenants, des enseignants, des ATSEM, des AESH, sur le temps périscolaire, soit au rendez-vous.
Alors, Mathieu Hanro, peut-être que vous voulez réagir avant qu'on fasse la pause. Oui. Et avant la deuxième partie de l'émission.
Oui, je veux bien, parce qu'il y a quelques points importants qui ont été soulevés. Tout d'abord, sur le statut des aidants, notamment des parents, et encore une fois, je reviens sur mon cas tout à l'heure concernant une famille herbinoise, et le fait que la maman ait dû travailler à temps partiel pour pouvoir s'occuper de son enfant. Je rappelle les engagements de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en la matière, pour qu'un véritable statut de l'aidant soit mis en place, ou en tout cas discuté par les voies parlementaires l'année prochaine. Donc ça, c'est un point important qui vient de souligner et de rappeler, qui est décisif. Comme a pu le dire M. Jumel également, faire en sorte que le statut, le travail des AESH soit moins précaire. Il y a un certain nombre d'avancées, notamment avec les CDD de 3 ans. Et je pense qu'il faut continuer, il faut pouvoir encore aller plus loin dans cette voie. Et deux points cruciaux sur lesquels nous, on se positionne très clairement au sein de la PHPP. Pour rappel, la PHPP, c'est donc un regroupement d'acteurs politiques de différentes sensibilités économiques et associatives qui œuvrent à une meilleure prise du handicap en France. Donc ces deux points, c'est la formation des corps enseignants au handicap. Là-dessus, on n'en fera pas l'économie. Ils peuvent en effet, les professeurs notamment, être en souffrance et en difficulté, en tout cas, quand ils constatent la question de personnes handicapées. On a beaucoup de remontées dans ce sens-là, donc il faut être pragmatique, il faut pouvoir les sensibiliser, les former, et là-dessus dédier des lignes budgétaires pour cela. Hein. En effet, il faut pouvoir y mettre les moyens, on n'est pas dupes, si je puis dire. Et puis, l'autre point qui est très peu abordé pour le coup, eh bien c'est tout simplement la mise en accessibilité des bâtiments. Ah.
Alors, Mathieu Henrot, je peux me permettre juste de vous interrompre parce qu'on va y revenir sur ces deux points. Dans la deuxième partie de l'émission, il faut qu'on fasse une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la Revue Politique et Parlementaire et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef qui est ici sur le plateau avec nos invités également, Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime, auteur d'un rapport dans une commission d'enquête sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap à l'école, et Mathieu Henrot qui est président de l'association qui réclame la prise en compte dans les politiques publiques et privées du handicap. On évoquait la situation à la fois des aidants, des accompagnants et aussi des personnels dans l'éducation nationale ou qui sont, je dirais, chargés d'accompagner ces enfants parce que ne peut pas y avoir de prise en charge par les enfants s'il n'y a pas de personnel dédié. Et j'ai trouvé sur un site, marentrée.org, énormément de témoignages. Hein. C'est un site qui recense l'ensemble des familles qui sont en difficulté. Alors, il y a autant de témoignages de familles qui n'ont pas d'AVS. Hein. Vous voyez, là, j'ai une famille qui dit « Mon fils est en moyenne section sans AVS. La maîtresse le laisse dans un coin avec le garage et les petites voitures. Elle me dit que c'est dur, etc. » Donc, ça traduit bien ce que vous disiez tout à l'heure. Et aussi des témoignages qui disaient « Tant d'AVS insuffisant pour notre fils qui présente une basse vision et un ralentissement idéomoteur. » Et d'autres qui disent « Eh bien, il y a un AVS, ça s'est très bien passé, mais l'année suivante, on nous l'a retiré et on nous a proposé quelqu'un d'autre. » Donc, vous voyez, il y a quand même un sujet sur, finalement, même quand les enfants sont scolarisés, ce n'est pas la fin du chemin de croix.
Je veux bien commencer. Il y a d'abord un enjeu fort, c'est de créer les conditions pour qu'on associe les parents à toutes les étapes. Parce que les parents ne sont pas informés de ce qui conduit à une décision, de la manière dont elle va se mettre en œuvre, y compris de ce qui conduit à décider d'allouer 12 heures d'accompagnement ou 24 heures d'accompagnement.
C'est-à-dire qu'il y a un manque de transparence ?
Ouais, enfin, ça ne se fait pas dans la co-élaboration, en tout cas. Et moi, je pense que la place des parents, au moment où on prend la décision, elle doit être respectée. Deuxième élément sur la stabilité des équipes, quand on aura résorbé la précarité des intervenants, on aura en partie réglé la question de la stabilité des équipes, de mon enfant a mis du temps à s'habituer à un AVS, parce que son handicap impliquait qu'il établisse une relation de confiance. D'ailleurs, handicapé ou non, d'avoir une relation de confiance
c'est pareil pour
avec
les
l'adulte qui vous accompagne, c'est évidemment pas neutre. Et une fois que cette relation de confiance est bâtie, et ben, l'AVS s'est envolé parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il a perdu ses heures, etc. Donc, c'est évidemment vital de permettre ça, d'autant que selon les handicaps, je pense notamment à la langue des signes, que je propose moi de considérer comme une langue vivante à part entière, il y a des compétences qui ne s'acquièrent pas en 5 minutes. Et enfin, il y a encore à souligner des dysfonctionnements, mais qui sont liés à la chose suivante. Les MDPH décident, et c'est bien ainsi, de reconnaître un droit individuel à accompagnement. Mais ensuite, ceux qui mettent en œuvre les moyens concrets, c'est l'éducation nationale. Et l'articulation est compliquée. Par exemple, moi, dans mon département, les MDPH décident le 27 août, ou même après la rentrée, de reconnaître un handicap. Mais une fois que la rentrée est passée, l'enfant est quand même en classe. Et donc, j'ai l'impression, mais je vais vérifier ça le 27, que la rentrée s'est mieux passée que l'année précédente, qu'il y a eu moins de couacs que l'année précédente, mais d'une certaine manière, il suffit qu'il y en ait un pour que ce soit inacceptable. Bien sûr. Parce que c'est un droit fondamental. Exactement.
Mathieu Hanreau ?
Oui, en effet, je suis d'accord avec monsieur, je mets dessus. Chaque cas est un cas précis. Il suffit qu'un cas on ne trouve pas de solution pour un cas, pour que ce soit une vraie difficulté, que ce soit quelque part un échec. Sur cette plateforme marentrée.org, comme le premier point, et c'est quand même un point à ne pas négliger, c'est que ça permet en tout cas aux familles de parler et au moins de libérer la parole sur ce sujet, comme le centre téléphonique également qu'on a pu évoquer tout à l'heure. C'est important également parce que c'est un facteur à prendre en compte. J'ai beaucoup entendu dire que il y avait une vraie frustration de ne pas pouvoir évoquer leur problématique, ne pas pouvoir en parler. Et il y avait une souffrance des parents là-dessus. Donc déjà, première chose, voilà, pouvoir l'exprimer. Après maintenant, une fois qu'on l'a exprimé, bien sûr, l'enjeu était de pouvoir trouver des solutions derrière pour régler ces problématiques. Et bien, les cas que vous aviez exprimés, ça fait clairement écho à ce qu'on a pu dire tout à l'heure. En effet, qu'on puisse pouvoir mettre en place un statut des AVS vraiment défini avec moins de précarité dans l'emploi et puis avec davantage de moyens sur des disponibilités en faveur des élèves en situation de handicap. De la même manière également, vous parliez de cet enseignant qui pouvait être en difficulté. C'est mieux les préparer, mieux les former, mieux les sensibiliser. Je reviens encore sur ce point-là. Et encore sur un dernier point qu'on n'a pas eu le temps de trop évoquer tout à l'heure également, c'est l'accessibilité des bâtiments scolaires. Parce que quand on parle d'accessibilité, on parle souvent uniquement, bien sûr, des escaliers, des marches, des personnes à mobilité réduite. Mais l'accessibilité, ça va bien plus loin que ça également. On parle également de déficients visuels. Mais quelle accessibilité d'un bâtiment pour lui, de personnes avec des troubles mentaux ou alors de dyslexie, de dysphasie, etc. Également, il faut pouvoir avoir de la signalétique visuelle dans les bâtiments. J'en ai visité un certain nombre et en effet, on a du retard là-dessus également. Il y a beaucoup de chantiers à engager en même temps. Moi, je pense vraiment que le gouvernement s'est saisi de ces enjeux-là. Je suis assez d'accord également avec M. Jumel sur le fait que cette rentrée s'est peut-être mieux passée que les précédentes sur ces enjeux-là, mais il ne faut surtout pas relâcher la pression, si je puis dire. Au contraire, il convient d'accélérer parce que le chantier est assez énorme. Et si on veut une inclusion, et si on parle beaucoup de société inclusive, bien sûr, c'est de toute façon par l'école qu'on transformera la société pour les générations futures. Avec un dernier point sur lequel également je voulais dire, quand on parle de société inclusive, nous, notre position au sein de la PHPP, c'est pas non plus l'inclusion à tout prix, l'inclusion coûte que coûte.
Je partage cet avis.
On est très clair là-dessus et on ne fait pas d'idéologie là-dessus. En effet, dans certains cas, on peut comprendre que c'est compliqué ou ce n'est même pas souhaitable.
Ou pas possible, tout simplement. Il faut des prises en charge vraiment spécifiques.
Et même ce n'est pas souhaitable. Mettre l'enfant en situation de souffrance également, lui, elle est où dans ce cas-là l'intérêt de l'inclusion? On parlait tout à l'heure des écoles pour jeunes sourds ou jeunes aveugles, par exemple. Il faut, ou bien sûr en IME, il faut pouvoir se garder ses marges de manœuvre également et pas de faire non plus de simplisme là-dessus. Hein. Chaque cas peut être particulier, peut y avoir des considérations et pas de globalisation d'un sujet qui est de toute façon complexe. Voilà en tout cas la position de notre association.
Alors, Arnaud Benedetti... Oui,
je voudrais revenir sur votre rapport, Sébastien Jumel. Vous avez un constat où vous dites, finalement, il y a beaucoup trop d'acteurs qui, aujourd'hui, interviennent sur le sujet, notamment de ministères, et vous faites une proposition qui est une proposition d'un grand service public de l'école inclusive. Quelle forme devrait prendre ce grand service public de l'école inclusive? Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler, je veux dire, quel serait le contenu de ce service public?
Je ne vais pas jusqu'à la proposition qui consisterait à créer un ministère de plein exercice unique pour traiter de la scolarisation des enfants en situation de handicap, de la maternelle à l'université, hein, mon rapport intègre y compris le champ de la formation professionnelle, mais je pense que dans les dysfonctionnements que nous avons mesurés, il y a le fait que l'État a été, il reste en partie incapable de savoir où on va, de savoir d'où on part. À un moment donné, dans la commission d'enquête, j'ai poussé un coup de gueule en disant, écoutez, j'ai demandé des statistiques, des chiffres, et vous êtes incapable de me les donner, donc je vais venir les chercher, puisque le rapporteur de la commission d'enquête a quasiment les prérogatives d'un magistrat et peut aller sur place chercher les documents. Et je pense que ce n'était pas de la mauvaise foi du gouvernement, mais ils étaient incapables de fournir les éléments sur combien de gamins arrêtent l'école, sont déscolarisés quand ils sont en situation de handicap, quelle est la réalité du nombre d'heures où on est scolarisé quand on est en IME ou quand on est en ULIS, etc. Et donc, le service public que je préconise, il vise à avoir un pilotage global, cohérent, stratégique, commun à l'ensemble des ministères pour y voir clair. Et puis avec, évidemment, les moyens budgétaires qui permettent, sur les moyens humains, sur l'accessibilité des bâtiments, sur l'aménagement des examens, sur un sujet que je n'ai pas encore abordé, mais qui est un sujet important, le remboursement du dépistage précoce. Pour les mômes qui sont 10, notamment les 10 orthographiques, on ne s'aperçoit de ce handicap qu'à partir du moment où on sait écrire. Sauf que le remboursement des dépistages précoces, c'est jusqu'à 7 ans. Quand l'handicap apparaît après 7 ans, les parents ne sont pas remboursés. On fait la proposition, nous, de pousser la limite d'âge. Le gouvernement avait l'air d'être open là-dessus. Et on me dit que dans les arbitrages du rabot de Bercy, ça a l'air d'être plus compliqué. Mais c'est des choses très concrètes comme ça qu'on va... Les aménagements d'examen. Enfin, il y a 53 000 élèves doctorants aujourd'hui en France par an. Donc d'étudiants qui préparent un doctorat. 120 doctorants en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand on est handicapé, on n'est pas capable d'être docteur en physique, en maths, en paléontologie, enfin, que sais-je encore? Évidemment que si. Mais ça veut dire que le parcours du combattant qui démarre à la maternelle pour les mômes se poursuit, y compris dans le cadre de Parcoursup, à chaque étape. Eh bien, au-delà du discours généreux, il faut qu'on mette en place des systèmes très concrets d'accompagnement. Moi, j'ai le souvenir dans ma commission d'enquête d'une jeune qui s'appelait Amandine Torressian, étudiante en école supérieure de professorat, qui a donc passé son diplôme pour être prof. Depuis, elle m'a écrit, elle a renoncé à enseigner. Parce que à chaque étape, ça a été la galère. Des cours qui étaient dispensés au troisième étage alors qu'elle était... dans la capacité de prendre les escaliers, une non-prise en compte de la réalité que représentait ce handicap. Et moi, je crois que là-dessus, on a des réponses très concrètes. Sur l'accessibilité des bâtiments, bah, il faut aussi accompagner les collectivités. Parce que les agendas d'accessibilité sont obligatoires. Mais moi, dans une commune de 200 habitants, 300 habitants, où le maire ne sait pas comment il va boucler son budget, ou dans un département, j'ai été vice-président du département de Seine-Maritime, où il y avait 110 collèges. Bah, quand vous devez rendre 110 collèges accessibles, c'est plusieurs millions d'euros.
Ça coûte très cher.
Quel accompagnement l'État met en place concrètement pour permettre ça? Autant de ces sujets concrets qui doivent nous conduire à passer de « on va le faire » à « on le fait ». C'est aussi le sens de ce rapport. Dans le domaine de l'inclusion, passer de « on va le faire » à « on le fait ». Et puis je rejoins notre ami représentant des associatifs. Le tout inclusif peut être violent. Pas tomber dans l'angélisme là-dedans. Il y a des handicaps, il y a des choix des familles qui doivent être respectés et qui justifient une réponse en établissement spécialisé. Moi, je suis aussi très vigilant à cela.
Alors justement, Mathieu Hanreau, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Il y a une obligation de scolarisation hein, pour tous les enfants, donc y compris les enfants handicapés. Et on voit bien toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées et on a déjà identifié un certain nombre de mesures. Si vous deviez adresser un message à la fois à Sébastien Jumel qui est ici et qui va continuer à porter le sujet, mais aussi au gouvernement, sur quelles seraient les deux ou trois priorités et sujets sur lesquels il faudrait vraiment soit des moyens supplémentaires, soit une prise en compte, une urgence, quoi.
Alors, il y en a plusieurs. C'est pas évident comme question. Après, je comprends qu'il y a des... Il peut y avoir des choix à faire. Regardez très précisément cette question des AVS, du nombre d'AVS disponibles. Je sais que c'est le gouvernement regarde ça de très près, mais c'est une préoccupation majeure.
Il faut recruter encore.
Oui, je pense que oui, il faut regarder précisément combien il faudrait, combien de sous-effectifs on aurait sous AVS encore aujourd'hui. Mais il faut regarder ça très pragmatiquement, quitte à talonner ça sur plusieurs exercices, mais on n'en fera pas l'économie. La formation des corps enseignants également, en effet, est très importante. Et puis, sur ce qui a été dit, sur l'accessibilité du bâtiment aussi, parce que tout n'incombe pas non plus à l'État. Donc on peut comprendre que pour un certain nombre de petites villes, ce soit compliqué, mais enfin, la loi de 2005, ben justement, elle date de 2005. C'est les élections municipales dans un peu moins de 6 mois maintenant. Tous les candidats doivent regarder ce sujet de l'accessibilité, que ce soit dans les écoles et ailleurs, mais en tout cas pour dédier une ligne budgétaire à la mise en accessibilité de leur bâtiment. Voilà, ça regarde également, c'est de l'ordre de la politique communale. Et c'est un petit peu tout ce concerné dans ce cadre-là. Hein. Donc, on attend beaucoup de l'État. Bien sûr, c'est l'État qui doit agir sur ces sujets-là, mais pas que également. Et la politique locale est importante en la matière.
Sébastien Schumel, il faudrait recruter combien de personnel pour que 100% des enfants soient accueillis? En tout cas, on a bien compris, celles et ceux qui le souhaitent. Hein. On a bien compris qu'il n'y avait pas d'automaticité, mais...
Il y a eu des efforts en nombre. 70 000 AESH, 30 000 AVS, mais il y a surtout besoin de déprécariser. Considérer que le temps avec les équipes est du temps de travail, que le temps de formation est du temps de travail. Quand vous occupez d'un enfant autiste, d'un enfant trisomique, d'un enfant en situation de handicap quelconque, vous devez pouvoir échanger avec les enseignants, avec les ATSEM, avec les parents. Tout cela, c'est du temps invisible, mais du temps nécessaire. Pour une vraie inclusion. Donc, je réponds comme un Normand. La question est moins le chiffre que la qualité des emplois qu'on met en face. Et là, il y a un vrai enjeu de monter en charge avec une validation des acquis, avec une cédélisation de ceux qui ont plus de 6 ans d'expérience comme premier signal. Donc voilà un peu dans quel état Mais d'esprit je suis.
Justement, sur la question de la déprécarisation, qu'est-ce que vous répond aujourd'hui le gouvernement sur cette question-là?
Pour l'instant, ils refusent d'aller vers le statut. D'ailleurs, ils viennent de voter une réforme de la fonction publique qui casse le statut. Donc quand on dit nous statut à AESH, on est à contre-courant de la vision libérale. J'ai quand même considéré que en passant à des contrats de 3 ans renouvelables une fois, il y a déjà un premier progrès.
C'est parce l'avancée.
Que 95% des intervenants étaient avec des contrats de moins d'un an. Donc, ouais. Si vous avez un contrat de 6 mois et qu'on vous propose un contrat de 3 ans, c'est déjà une avancée. Sur 52 semaines, avec des heures de formation. Et moi, je propose que ceux qui ont 6 ans d'expérience, on les cédise immédiatement. Alors évidemment, moi, je suis pour le statut. Il vaut mieux un titulaire de la fonction publique qui a un contrat à durée indéterminée, mais en même temps, moi, je suis pragmatique et pour les intérêts, ce serait déjà une avancée considérable.
Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin parce que notre émission, eh bien, toute passionnante, aussi passionnante soit-il, eh bien, elle arrive à sa fin. J'en profite pour remercier Arnaud Benedetti, qui était avec nous dans le cadre du partenariat avec la revue Politique et Parlementaire, et nos deux invités, Mathieu Hanreau, président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, et Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, qui est en ce moment à la tâche avec une commission d'enquête, un rapport et 57 propositions dont nous imaginons qu'il va tenter de les défendre autant que faire se peut.
De les traduire dans la loi de finances et dans la loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'une chose est d'être d'accord avec le rapport, une autre est de transcrire dans la loi.
Eh bien, nous serons vigilants et nous n'hésiterons pas à vous réinviter tous les deux pour en parler. C'était l'émission « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient. Merci, à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.